Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le confinement continuera jusqu'au 1er décembre au moins, dit le Premier ministre. Les rideaux des bars, restaurants, commerces dits non essentiels resteront donc baissés pour au moins 15 jours.
Quelle communication du gouvernement à ce propos et quel danger politique pour les mois à venir ? Analyse en début de journal.
Vous comprendrez ensuite pourquoi les élections régionales et départementales prévues en mars prochain pourraient être reportées. Le rapport de Jean-Louis Debré à ce propos sera rendu en fin de matinée au Premier ministre.
La police tire à balles réelles sur des manifestants en Angola. Elle veut éteindre une contestation contre le gouvernement et contre le coût de la vie. Témoignage à suivre.
Et puis, 5 ans après les attentats du 13 novembre 2015, l'Orchestre de Chambre de Paris jouera ce soir une œuvre créée pour l'occasion. Extrait en fin d'édition. Croiser les doigts pour Noël et sacrifier le mois de novembre. Le gouvernement a donc choisi de ne pas modifier le confinement. Le protocole sanitaire mis en place il y a 2 semaines va encore durer au moins 15 jours. Cela signifie que les petits commerces restent fermés. Une décision qui peut alimenter un fort ressentiment en ce moment et qui peut nourrir les extrêmes. En témoigne ce matin cette détresse économique et politique de Jacques Vuillermet. Il est propriétaire de 24 magasins de vêtements situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il emploie 130 salariés pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.
Me sentir comme ça désœuvré et sombré, et que tout le monde, dans l'indifférence générale de la France et de l'État, moi qui suis démocrate et qui ai voté centre-gauche et centre-droite toute ma vie parce que je me suis fait une fierté d'avoir une ligne de conduite et d'être droit dans mes bottes, je ne suis pas sûr d'être aussi démocrate tout le reste de ma vie. Dans les prochains votes, dans 14 mois, dans 16 mois, je pense qu'il y a des gens qui vont être tentés de mettre dans l'urne des bulletins qu'ils n'auraient pas mis. Et c'est pas bien. C'est l'effet de la colère. Mais aujourd'hui, j'aurais un choix à faire devant une urne présidentielle, j'hésiterai. Et juste le fait de penser que j'hésiterai, déjà ça me gêne. Parce que je sais que je ne suis pas sur la bonne route. Mais j'ai une espèce de haine d'abandon et qu'on piétine qui fait que j'aurais le doute. Je ne voterai pas extrême droite parce que je suis démocrate avant tout, mais j'aurais l'hésitation. Donc déjà, juste le fait que j'ai l'hésitation, déjà, ce n'est pas bon. Et je sais qu'il y a plein de copains autour de moi qui n'hésitent pas. Je trouve ce discours et ce schéma dangereux, quoi. Dangereux pour une démocratie. Nous, les petits et moyens commerçants, on se sent aujourd'hui désœuvrés et abandonné. C'est un raisonnement normal de quelqu'un qui se fait piétiner et qui a envie de répondre, quoi.
Alors, qu'a dit le gouvernement pour déclencher ce discours chez certains Français ? Hier soir, Jean Castex a en fait dessiné quelques perspectives d'amélioration tout en justifiant une prolongation du confinement à cause du Covid-19, Mathieu Laurent.
Tendance à la baisse, mais encore trop fragile pour desserrer les taux. Peut-être dans 15 jours, si la situation s'améliore, et moyennant des protocoles renforcés dans les commerces, les bars et les restaurants resteront eux fermés ou selon Matignon. Les risques de contamination sont par nature plus élevés. Fin de citation. Le gouvernement promet de maintenir ses aides aux entreprises, activités partielles, report des prêts garantis, incitation fiscale allégée pour les loyers des commerçants de 250 à 5000 salariés. Le gouvernement annonce une prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance chômage pour les chômeurs en fin de droit. Les protocoles au lycée où 50% des cours doivent être assurés restent les mêmes. Les personnels de l'éducation nationale seront sous peu prioritaires dans l'accès aux tests PCR. Une nouvelle quinzaine de reconfinements donc pour consolider les timides améliorations constatées. Dans une semaine, nouveau point d'étape et de nouvelles restrictions. Si le nombre de patients Covid en réanimation devait continuer à augmenter, dans le cas contraire, il ne sera pas déraisonnable de penser aux fêtes de fin d'année en famille, mais, a martelé Jean Castex, Noël et 31 décembre en petit comité.
Et pour les réveillons d'ailleurs, le gouvernement évaluera plus tard la possibilité de prendre le train, par exemple, pour rejoindre des parents. Notez que pour ce qui est des établissements scolaires jusqu'aux vacances de Noël, pas de changement. Les lycées panachent toujours les cours de distanciel et de demi-groupe. Pas de consignes plus précises pour le primaire et le collège. Pour les conséquences à plus long terme maintenant, conséquences politiques. Les élections régionales et départementales seront-elles reportées après le mois de mars ? L'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, remet son rapport à ce propos à Matignon en fin de matinée tout à l'heure. Cela n'a pas été chose facile, Antoine Marette.
Maintenir les élections en mars prochain, ce serait risquer de renouveler le fiasco des municipales. Le premier tour avait été maintenu malgré l'épidémie et le second tour reporté en catastrophe. Actuellement, en novembre, on est dans l'impossibilité de savoir quelle sera la situation sanitaire en mars. Et de toute façon, une élection est précédée d'une campagne. Le principe de précaution impose donc de reporter le scrutin. Mais toucher à un calendrier électoral, c'est toujours délicat, surtout à l'approche d'une présidentielle. La République En Marche ne part pas favorite pour les prochaines régionales et départementales. La tentation était donc grande de les remiser après la prochaine présidentielle, faire du tripatouillage électoral sous couvert de précautions sanitaires. Mais c'était sans compter sur l'opposition, ou plutôt les oppositions, à gauche et surtout à droite. À LR, dans un premier temps, on a exigé coûte que coûte le maintien du scrutin à mars, jusqu'au deuxième confinement et la nomination de Jean-Louis Debray, un sage venu de la droite qui a consulté pendant plusieurs semaines les différents partis pour arriver à un consensus des élections en juin prochain, après mars donc, mais bien avant la présidentielle. C'est ce que Jean-Louis Debray devrait proposer tout à l'heure au Premier ministre, qui ne prendra pas de décision immédiatement. Jean Castex consultera à nouveau les partis. La décision finale sera prise entre décembre et janvier.
Et quelle que soit la date de l'élection, y aura-t-il un vote possible par correspondance? Question posée et réponse analysée par Frédéric Seyss dans son billet politique à 8h17 sur France Culture. Notre filiale en Europe a étudié des tas de solutions, mais les options qui nous ont été proposées par le gouvernement français ne sont pas réalistes. C'est avec ces mots que la direction japonaise de Bridgestone justifie la fermeture de son site du Pas-de-Calais, tout en proposant 4 repreneurs potentiels. Une chose est maintenant sûre, les 863 salariés de Béthune verront leur usine fermée l'année prochaine. C'est un aveu d'échec pour le gouvernement français qui s'était fortement mobilisé, Stéphane Robert.
Au moment de l'annonce de la fermeture de l'usine, à la mi-septembre, le pouvoir exécutif avait fait part de son indignation et avait promis de tout faire pour inverser la tendance. « On va se battre », avait dit notamment la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher.
Cette fermeture, on n'accepte pas. Parce que lorsqu'on a un projet industriel et qu'on est à la tête d'un site industriel, on n'arrive pas avec un seul scénario. On va se battre parce que c'est important pour Béthune, important pour le territoire.
Nous sommes là, avait encore renchéri la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
On ne laissera pas tomber les élus, on ne laissera pas tomber les salariés.
2 mois plus tard, on constate que le volontarisme affiché de l'exécutif a fait long feu. Bridgestone quitte Béthune et les nouvelles promesses d'Agnès Pannier-Runacher sur l'accompagnement des salariés sonne comme un aveu d'échec. Cette affaire rappelle d'autres épisodes, les échecs de François Hollande avec ArcelorMittal à Florange en Moselle, ou encore quelques années plus tôt de Nicolas Sarkozy avec la scierie de Gandrange, toujours en Moselle. Ces épisodes sont délétères parce qu'ils semblent confirmer, année après année, l'impuissance du pouvoir politique face à une économie de plus en plus mondialisée et de plus en plus incontrôlable. Ce qui ne peut que creuser un peu plus encore le fossé entre la population et ses responsables publics dans un pays, la France, que le Centre d'études de la vie politique française a récemment rebaptisé le pays de la défiance.
Les mises en examen de l'ancien président Nicolas Sarkozy ne reposent pas uniquement sur les propos de Ziad Takieddine. Voici ce que dit le procureur dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne de 2007. L'ancien chef d'État est donc toujours soupçonné malgré les récents propos du témoin clé. Ziad Takieddine assure maintenant, je vous le rappelle, que la Libye n'avait rien versé à Nicolas Sarkozy. Cette information donnée il y a quelques minutes par le ministère des Armées, la France annonce la mort d'un haut responsable djihadiste au Mali. Il s'agirait du chef militaire de la branche sahélienne d'Al-Qaïda, tué donc par la force Barkhane au Mali.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Il y a eu des tirs à balles réelles en Angola pour réprimer les manifestations contre la pauvreté.
Oui, la police angolaise n'a pas utilisé que des gaz lacrymogènes avant-hier pour disperser effectivement de jeunes manifestants qui protestaient contre le coût de la vie dans leur pays. Cela fait plusieurs semaines que des foules se rassemblent dans la capitale Luanda contre le gouvernement, contre le chômage, contre la corruption étatique. Et ce sont souvent des jeunes, Nathanaël Charbonnier.
Quand on est angolais, qu'on est jeune, on n'est pas surpris de la violence policière. Ken vit en France, d'où il suit l'enchaînement des manifestations dans son pays, et il sait que les autorités n'hésitent pas à tirer.
La brutalité policière, c'est un fait. Pratiquement, les manifestations en Angola, ça a toujours été à balles réelles. Ça n'a jamais été à balles de caoutchouc. En fait, il y a même une peur de manifester.
Les Angolais ont peur. Pourtant, ce 11 novembre devait être jour de fête nationale, fête de l'indépendance, fête interdite par le pouvoir, qu'il a fait savoir à sa façon à la population. Sur ces images, on peut voir des policiers frapper une femme qui marche dans la rue. Sur d'autres photos, on peut voir des corps sans vie sur le sol. Une violence insoutenable alors que la jeunesse veut juste la tenue d'élections et protester contre la pauvreté et le chômage qui touchent durement le pays.
Le manque d'emploi, c'est un grand problème. Qu'on veuille ou pas, tout le monde a au moins quelqu'un de sa famille qui est dans une situation assez compliquée par rapport à ça. Le problème, c'est qu'on ne sent pas que notre gouvernement trouve des solutions pour régler ces problèmes-là.
Pas de solution, mais de la violence. Amnesty International appelle les autorités à respecter la liberté d'expression et la tenue de réunions pacifiques dans le pays.
Des manifestations aussi au Pérou en ce moment pour dénoncer là la destitution du président Martin Vizcarra. Des milliers de Péruviens rejettent son remplaçant nommé par intérim cette semaine, Manuel Merino, ancien président de l'Assemblée, nommé automatiquement. Sa légitimité, disent les manifestants, ne vient pas du peuple. Lui a été élu le plus démocratiquement possible, selon plusieurs autorités électorales aux États-Unis. Joe Biden a remporté l'État de l'Arizona lors de la présidentielle la semaine dernière, ce qui consolide un peu plus sa victoire face à Donald Trump. Il n'y a aucune preuve de bulletin perdu ou modifié, ni de vote piraté. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis, précise notamment une agence qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure. 5 films sont en lice pour représenter la France aux Oscars au printemps prochain. Parmi eux, 2 longs métrages sortis en salle depuis la fin du premier confinement, puis achetés par Netflix qui les distribue aux États-Unis. Il s'agit de ADN de Maïwenn et Mignonne de Maïmouna Doucouré. In fine, un seul des 5 films représentera la France lors de la 93 cérémonie. Elle est prévue le 25 avril prochain à Los Angeles. Et justement, quelle place pour la culture en ce moment quand le monde traverse une pandémie? Que lui reste-t-il? Question à laquelle tentera de répondre Anne Lamotte ce soir à l'occasion du grand reportage de la rédaction. Anne s'est rendue à Stains, en banlieue parisienne, où l'on s'efforce tant bien que mal de garder un lien étroit entre une population dite défavorisée et la culture, malgré les mesures de restriction sanitaire. Exemple au studio théâtre de Stains, où les répétitions d'un spectacle sur Jean-Jacques Rousseau continuent, parce que, selon la directrice artistique Marjorie Nakache, le théâtre est le seul lieu possible de réconciliation. Extrait.
Ce n'est pas la volonté particulière d'un roi.
Il n'y a que par le geste artistique, il n'y a que par l'art, il n'y a que par la littérature, le théâtre, la danse, etc. Il n'y a que par ça, que par le médium de l'art, que des gens qui n'ont rien à voir entre eux, que tout oppose, trouvent une langue commune. Il n'y a que par ça qu'on peut y arriver. On peut tout à fait parler de religion. On peut tout à fait parler de la condition de la femme, on peut parler de sexualité, on a parlé de tas de choses à partir d'Andromaque de Racine, et des choses qui sont éminemment essentielles. Là, avec Rousseau sur scène, on parle de quoi? On parle de la souveraineté du peuple, on parle de la notion de liberté, on parle de l'intérêt général, on parle de l'utilité publique.
Ainsi, on n'obéit pas aux hommes, mais aux lois.
Je comprends pas qu'on puisse voir ça de son bureau du 6e arrondissement ou de je ne sais pas où, décider de fermer les théâtres, décider que ça puisse être des lieux de contamination. Mais putain, c'est de la contamination culturelle, mais ouvrez-les en grand, c'est ici qu'on doit être.
Merci.
C'est tout ?
Ah, c'est formidable.
À Stains, la culture résiste au Covid. Écoutez donc ce reportage en longueur d'Anne Lamotte à partir de 17h ce soir sur France Culture. Il a été réalisé avec Emmanuel Faucillon et sera présenté par Aurélie Kiefer. D'ici là, sur France Culture ce matin, nous nous souvenons. Nous nous souvenons du 13 novembre 2015, il y a 5 ans, très exactement, un vendredi là aussi. Le terrorisme avait frappé Paris et Saint-Denis, du Stade de France au Bataclan jusqu'aux terrasses parisiennes, 130 morts. Ce soir, l'Orchestre de Chambre de Paris va créer à la Philharmonie de Paris une œuvre originale musicale intitulée « Il fait novembre en mon âme ». Cette œuvre, Stéphane Capron, a été commandée par la mère d'une des victimes. Elle a perdu son fils de 39 ans au Bataclan.
C'est à Madrid, devant Guernica de Picasso, que Louise Albertini a l'idée de cette commande.
Suite à l'émotion que ce tableau avait suscité, il nous est venu à l'idée que peut-être que l'État pourrait faire une commande d'une œuvre d'art, comme le gouvernement des Républicains espagnols avait fait à l'égard de Picasso.
Elle écrit à Emmanuel Macron, qui ne donne pas de suite, alors elle se tourne vers la Fondation de France et son action des nouveaux commanditaires, qui missionne Bruno Messina pour accomplir le projet. Leur choix tombe sur le compositeur français franco-libanais Béchara El Khoury.
Il s'est avéré que l'idée d'un poème symphonique, d'une œuvre longue, d'un seul tenant, serait la bonne œuvre, comme une sorte de discours, comme ça. Et puis qu'il y aurait une voix de femme. Il voulait une voix de femme, mais il ne voulait pas de texte. Il ne voulait pas que ce soit signifiant, que chacun puisse poser ses mots.
Les stèles sont importantes pour mettre les noms, mais une œuvre musicale, c'est mettre de l'art qui nous amène au-delà des événements stricts. C'est donner une autre dimension aux événements. Parce que c'est vraiment l'œuvre qui va nous aider à dépasser l'horreur de ces moments-là.
Louise Albertini souhaite que cette œuvre soit jouée partout dans le monde pour honorer Stéphane, son fils, et toutes les victimes du terrorisme.
Ce concert hommage est retransmis ce soir à 20h30 depuis la Philharmonie sur le site et l'application Philharmonie Live et puis sur Arte Concert. Diffusion ensuite jeudi prochain sur France Musique. Attentat, la mémoire et ses impasses. La discussion reprend par ailleurs ce matin avec vos invités Guillaume Erner. Ce sera dans 5 grosses minutes. Juste le temps pour moi de vous donner la météo de ce vendredi. De la pluie au nord de la Loire, d'ouest en est. Un temps plus ensoleillé au sud. Avec 7 degrés à Besançon ce matin, 9 à Lyon, 12 à Paris, Brest et Bordeaux, 16 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal. Dans 30 minutes, eh bien, nous aurons nos camarades traditionnels et habituels. Je veux parler d'Hervé Gardet, Géraldine Mosna Savoie et Arnaud Laporte. Et puis, on va évoquer ce travail effectué sur le 13 novembre, la mémoire du 13 novembre. Nous serons en compagnie d'un historien, Denis Péchanski, et d'une sociologue, Laura Natiez. Et puis, un billet politique avec vous, Frédéric Seyss. Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Aimeriez-vous voter par correspondance ? Le gouvernement réfléchit à l'autoriser, mais ce n'est pas gagné.